Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Québec Oiseau et La Presse. Au programme, le Jardin botanique de Montréal, selon Guy Zenatis. Et pourquoi l'intelligence artificielle dit-elle des absurdités? Bonne écoute!
Le Jardin botanique de Montréal, selon Guy Zenatis. Un texte d'Émile Brisson-Curado, paru dans l'édition Printemps 2023, volume 34, numéro 3, du magazine Québec Oiseau. Durant près de 30 ans, Guy Zenatis a arpenté le Jardin botanique de Montréal, ses jumelles à la main. Jusqu'à peu avant son décès, survenu en 2015, il a consigné des milliers d'observations qui témoignent d'une forte baisse de l'occurrence de plusieurs espèces d'oiseaux fréquentant ce joyau urbain. Au cœur du désert asphalté qu'est l'est de Montréal, se dresse une oasis luxuriante de 75 hectares, irrésistible pour les oiseaux passant dans les parages et pour ceux qui souhaitent les observer. Cet îlot de verdure, c'est le Jardin botanique de Montréal, un site ornithologique incontournable de la métropole. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 11 700 rapports d'observation avaient été enregistrés dans eBird, faisant de l'endroit le troisième site ornithologique le plus achalandé au Québec, après la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente et le domaine de Mézeray, tous deux situés dans la région de la capitale nationale. Parmi les nombreux observateurs réguliers qui ont foulé les sentiers de la vénérable institution, un amateur d'oiseaux nommé Guy Zenatis a su se démarquer par la fidélité inébranlable de ses visites. Cet ornithologue expérimenté a fait du 4101 rue Sherbrooke-Est son repère entre 1986 et 2013, cumulant plus de 900 visites et 2000 heures d'observation. M. Zenatis était connu comme un ornithologue particulièrement méticuleux, répertoriant avec assiduité toutes les espèces rencontrées lors de chacune de ses visites. Les données qu'il a récoltées constituent aujourd'hui une véritable mine d'or pour qui veut contempler l'évolution des oiseaux au jardin au fil des dernières décennies. J'ai décidé de dégager les tendances des effectifs des espèces présentes au jardin botanique en utilisant les données de M. Zenatis. Les communautés végétales du site ayant beaucoup changé au cours de cette période, je voulais vérifier si cela avait entraîné des répercussions sur les espèces d'oiseaux recensées. J'ai séparé ces données en deux tranches égales, soit les périodes historiques, 1986-1999 et récente, 2000-2013, pour ensuite les comparer entre elles. Par chance, M. Zenatis avait réalisé un nombre similaire d'heures d'observation durant ces deux périodes, soit 994 heures pour la première et 1042 heures pour la deuxième. De plus, son temps d'observation était relativement bien réparti à travers les années et les saisons. J'ai ensuite calculé, pour chacune des espèces, la fréquence d'observation, soit le nombre d'individus détectés par heure d'observation. C'est cette fréquence qui a servi à établir les tendances rapportées plus bas. Les résultats de cet exercice ont été très révélateurs à plusieurs égards. Forte diminution pour plus de la moitié des espèces. Avant de me lancer dans les analyses, j'ai voulu récolter quelques témoignages d'autres habitués du jardin, histoire de savoir un peu à quoi m'attendre. Plusieurs de ces observateurs de longue date m'ont dit que certaines espèces avaient incontestablement vu leurs effectifs diminuer, notamment chez les hirondelles et les canards. En revanche, d'autres oiseaux sont clairement plus nombreux maintenant, comme les cardinaux et les urubus. Cela dit, presque tous les ornithologues interrogés m'ont dit que, de manière générale, ils avaient l'impression qu'il y a moins d'oiseaux aujourd'hui qu'autrefois. Avaient-ils raison ou était-ce simplement de la nostalgie? Il semble que leur impression était bonne, puisque toutes les affirmations précédentes sont corroborées par les données de Guy Zonetis. Tout d'abord, on constate, dans les observations du regretté ornithologue, que la fréquence d'observation de plus de la moitié des espèces a connu une baisse d'au moins 30 % après l'année 2000. En revanche, seulement le quart des espèces rapportées ont connu une augmentation d'égale ampleur. Il est donc vrai qu'on assiste à une importante diminution chez la majorité des oiseaux répertoriés au jardin. Quelles sont les espèces les plus touchées? Comme le suspectaient les connaisseurs interrogés, les hirondelles font partie des grandes perdantes. L'hirondelle rustique, par exemple, a été vue par M. Zonetis à 42 occasions dans les années 1980-1990, mais pas une seule fois entre 2000 et 2013. L'hirondelle noire, plus rare, a été rapportée 13 fois au cours de la première période avant de disparaître elle aussi de ses carnets de notes. Quant à l'hirondelle bicolore, qui niche pourtant encore au jardin de nos jours, elle est passée d'une moyenne de 5 à 2 individus détectés par heure d'observation. Pourquoi une telle baisse? En fait, cette dernière fait écho au fort déclin qu'ont subi les hirondelles un peu partout au Québec. Depuis plusieurs décennies, celles-ci ont souffert de la diminution des populations d'insectes volants dont elles se nourrissent, en raison notamment de l'utilisation accrue de pesticides. De la même manière, d'autres espèces dont la présence s'est faite plus rare au jardin botanique ont connu une diminution de leurs effectifs à plus large échelle. C'est le cas entre autres du moineau domestique, de plusieurs fringillidés comme le gros bec errant et du goéland argenté. La fermeture du dépotoir Miron, non loin de là, a très probablement réduit l'attrait du secteur pour ce dernier. La perdrix grise, qui avait été vue lors de 50 visites jusqu'en 1999, a quant à elle été extirpée de l'île de Montréal au tournant du siècle, disparaissant du même coup des données de Guy Zonetis après l'année 2000. Je vous rappelle que vous écoutez Le Jardin botanique de Montréal selon Guy Zonetis, un texte d'Émile Brisson-Curado paru dans l'édition de printemps 2023, volume 34, numéro 3, du magazine Québec Oiseau. Top 10 des espèces ayant connu la plus forte diminution. Hirondelle rustique, moins 100 %. Perdrix grise, moins 100 %. Goéland argenté, moins 98 %. Jaseur boréal, moins 94 %. Pluvier kildir, moins 90 %. Roselin pourpré, moins 89 %. Canard d'Amérique, moins 86 %. Gros bec errant, moins 85 %. Goéland marin, moins 80 %. Roselin familier, moins 79 %. Top 10 des espèces ayant connu la plus forte augmentation n'inclut pas les espèces rares. Grèbe à bec bigarré, plus 3139%. Épervier de Cooper, plus 774%. Tirantritri, plus 322%, Pique Chevelu, plus 114%, Corneille d'Amérique, plus 112%, Bruant Familier, plus 99%, Moucherolle Phébie, plus 93%, Citella Poitrine Blanche, plus 92%, Viréo aux yeux rouges, plus 77%, Viréo à tête bleue, plus 64%. Changement d'habitat au jardin. Les canards ont également vu leur fréquence diminuer au cours de la période examinée. Au fil des années, le canard d'Amérique, le canard noir et le canard colvert se sont fait beaucoup moins présents dans les observations de Zonitis, moins 86%, moins 58% et moins 39% respectivement. Autrefois, ces trois espèces étaient recensées par dizaines en automne, voire par centaines dans le cas du colvert. Aujourd'hui, le canard d'Amérique est extrêmement rare au jardin, alors que le canard noir est noté seulement à l'occasion. Quant au colvert, bien qu'il soit encore très commun, leur nombre a fortement chuté en automne. Pourquoi une baisse aussi marquée, sachant que les populations de canards sont pourtant relativement bien portantes au Québec? La raison réside peut-être dans les changements survenus dans les étangs du jardin botanique. Autrefois, ils étaient profonds et dépourvus de végétation aquatique, ce qui en faisait des bassins privilégiés pour les canards en halte migratoire. Avec la sédimentation, la profondeur des étangs a nettement diminué et la végétation a pris de plus en plus de place. Ces changements n'ont pas eu l'heure de plaire aux canards, qui préfèrent en général les étendues d'eau libre comme les réservoirs durant les migrations. D'autres changements, survenus au jardin botanique, ont pu avoir un effet notable sur certaines espèces. Les terrains vagues sont devenus de moins en moins nombreux au fil des années au profit de zones plus aménagées, ce qui a chassé le pluvier Kildir, qui s'établit volontiers dans les espaces vacants en période de reproduction. D'ailleurs, alors que cet oiseau de rivage était autrefois un nicheur régulier au jardin, il n'est détecté de nos jours qu'en migration. Sans surprise, il a connu une baisse de 90% dans les observations de Guy Zonitis. Cela dit, l'espèce connaît aussi une diminution généralisée dans la province, ce qui n'a certainement pas dû aider sa cause à l'échelle locale. La plus faible présence d'autres espèces dans les données de M. Zonitis est plus difficile à expliquer. C'est le cas du roselin familier, pourtant en augmentation à l'échelle de la province. La multiplication des mangeoires sur les propriétés privées situées autour du jardin botanique n'y est peut-être pas étrangère. Les roselins ayant pu les préférer aux sentiers plus forestiers visités par Guy Zonitis. En outre, certaines mangeoires installées dans cet espace vert ont été enlevées depuis. Pas que du négatif. Alors que la fréquence d'observation de la majorité des espèces a diminué, chez d'autres, elle a littéralement explosé. S'ils ne plaisent plus aux canards migrateurs, les bassins envahis par la végétation ont fait le bonheur du grèbe à bec bigarré. L'espèce niche maintenant régulièrement au jardin, ce qui a amené une augmentation de plus de 3000% dans les données de M. Zonitis. Par ailleurs, le Tirantritri a niché au jardin entre 2006 et 2010, comme le laissent supposer plusieurs indices recueillis entre mai et août. Ce n'est toutefois plus le cas aujourd'hui, et l'augmentation marquée de sa fréquence, plus 322%, après 2000, est davantage le fait d'un cas isolé. L'épervier de Cooper est lui aussi un nicheur récent au jardin. Ces dernières décennies, l'espèce s'est installée dans les villes et banlieues partout dans le sud du Québec, ce qui s'est fait sentir dans les observations de Guy Zonitis, plus 774%. Quant au cardinal rouge, à la corneille d'Amérique, au pic chevelu, au bruant familier et à la citelle à poitrine blanche, ce sont également des espèces qui ont connu un essor au jardin comme dans bien d'autres endroits. L'épidémie d'agrile Dufresne, qui a tué la majorité des arbres du boisé des frênes, dans la portion nord du jardin, a sûrement attiré les pics et sittelles qui raffolent des arbres morts ou sénescents. La croissance des conifères arbustifs dans l'arboretum a dû pour sa part favoriser le bruant familier qui niche en abondance dans cette zone. Je vous rappelle que vous écoutez le Jardin botanique de Montréal selon Guy Zonetis, un texte d'Émile Brisson-Curado paru dans l'édition Printemps 2023, volume 34, numéro 3, du magazine Québec Oiseau. De nouvelles espèces. Certaines espèces ont manifestement connu une expansion trop récente pour qu'elles soient détectées dans les données de Guy Zonetis. C'est le cas de l'urubu à tête rouge, qu'il a observé seulement 5 fois au cours de ses 900 visites. L'espèce est maintenant vue régulièrement, ce qui coïncide avec une augmentation spectaculaire des effectifs dans l'est de l'Amérique du Nord. Le grand corbeau est une autre espèce qui a effectué une percée impressionnante à Montréal au cours des dernières années. En contraste, M. Zonetis n'a rapporté que 2 mentions de ce corvidé, toutes 2 en 2012. Parmi les ajouts les plus récents, un bruant des champs a fait du jardin son territoire de reproduction depuis maintenant 3 années, faisant exploser les observations de l'espèce durant tout l'été. C'est d'ailleurs le meilleur endroit pour admirer ce passereau à Montréal. Un double constat. Il y a 2 conclusions à tirer de cet exercice. La première est que la composition de la faune aviaire du Jardin botanique de Montréal a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Pour certaines espèces, les tendances constatées au jardin font écho à celles observées à plus grande échelle. Pour d'autres, elles semblent plutôt avoir été influencées par les transformations, aménagements, habitats qu'a connu le site lui-même. La deuxième chose à retenir, c'est qu'en allant observer les oiseaux régulièrement au même endroit, on recueille des données précieuses qui peuvent servir à la science. À vos jumelles! C'était le Jardin botanique de Montréal selon Guy Zonetis, un texte d'Émile Brisson-Curado paru dans l'édition Printemps 2023, volume 34, numéro 3, du magazine Québec Oiseau. Pourquoi l'intelligence artificielle dit-elle des absurdités? Un texte de Cad Metz, paru le 26 février 2023 dans La Presse. Le 7 février 2023, Microsoft a publié une nouvelle version de son moteur de recherche Bing qui, contrairement au moteur de recherche ordinaire, comprend un robot conversationnel capable de répondre aux questions dans une prose claire et concise. Depuis, les gens ont remarqué que certaines des réponses fournies par l'agent conversationnel de Bing sont inexactes, trompeuses ou carrément bizarres, ce qui fait craindre qu'il soit devenu conscient du monde qui l'entoure. Ce n'est pas le cas. Et pour comprendre pourquoi, il est important de savoir comment les agents conversationnels fonctionnent réellement. Le robot est-il vivant? Non. Répétons-le. Non. En juin, un ingénieur de Google, Blake Lemoine, a affirmé que la technologie de clavardage similaire testée au sein de Google était consciente. C'est faux. les agents conversationnels ne sont pas conscients et ne sont pas intelligents, du moins pas de la manière dont les humains le sont. Alors pourquoi semble-t-il vivant? Prenons un peu de recul. L'agent conversationnel de Bing est alimenté par une sorte d'intelligence artificielle appelée réseau neuronal. Cela peut ressembler à un cerveau informatisé, mais le terme est trompeur. Un réseau neuronal est simplement un système mathématique qui acquiert des compétences en analysant de grandes quantités de données numériques. En examinant des milliers de photos de chats, par exemple, un réseau neuronal peut apprendre à reconnaître un chat. La plupart des gens utilisent des réseaux neuronaux tous les jours. C'est la technologie qui permet d'identifier les personnes, les animaux domestiques et d'autres objets dans les images publiées sur des services Internet comme Google Photos. Elle permet à Siri et à Alexa, les assistants vocaux d'Apple et d'Amazon, de reconnaître les mots que vous prononcez. Et c'est ce qui permet de traduire l'anglais et l'espagnol sur des services comme Google Translate. Les réseaux neuronaux sont très bons pour imiter la façon dont les humains utilisent le langage. Et cela peut nous induire en erreur en nous faisant croire que cette technologie est plus puissante qu'elle ne l'est réellement. Comment font les réseaux neuronaux pour imiter exactement le langage humain? Il y a environ 5 ans, des chercheurs de sociétés telles que Google et OpenAI, une jeune pousse de San Francisco qui a récemment lancé le populaire agent conversationnel ChatGPT, ont commencé à construire des réseaux neuronaux qui apprennent à partir d'énormes quantités de textes numériques, notamment des livres, des articles de Wikipédia, des journaux de bord et toutes sortes d'autres choses publiées sur l'Internet. Ces réseaux neuronaux sont connus sous le nom de modèles de langue de grande taille. Ils sont capables d'utiliser ces montagnes de données pour construire ce que l'on pourrait appeler une carte mathématique du langage humain. Grâce à cette carte, les réseaux neuronaux peuvent effectuer de nombreuses tâches comme écrire leurs propres tweets, composer des discours, générer des programmes informatiques et, oui, soutenir une conversation. Ces grands modèles de langage se sont avérés utiles. Microsoft propose un outil, Copilot, qui repose sur un grand modèle de langage et peut suggérer la prochaine ligne de code lorsque les programmeurs informatiques créent des applications logicielles, de la même manière que les outils de complétion automatique suggèrent le prochain mot lorsque vous tapez des textes ou des courriels. D'autres entreprises propose une technologie similaire qui permet de générer des documents de marketing, des courriers électroniques et d'autres textes. Ce type de technologie est également connu sous le nom d'intelligence artificielle, IA, générative. Maintenant, les entreprises proposent des versions de cette technologie avec lesquelles vous pouvez discuter? Exactement. En novembre, OpenAI a lancé ChatGPT et c'est la première fois que le grand public a eu un aperçu de cette technologie. Les gens ont été stupéfaits à juste titre. Ces agents conversationnels ne parlent pas exactement comme un humain, mais ils semblent souvent le faire. Ils peuvent également rédiger des mémoires, des poèmes et aborder presque tous les sujets qui leur sont proposés. Pourquoi se trompent-ils? Parce qu'ils apprennent de l'Internet. Pensez à la quantité de fausses informations et d'autres déchets que l'on trouve sur le web. Ces systèmes ne répètent pas non plus mot pour mot ce qui se trouve sur l'Internet. En s'appuyant sur ce qu'ils ont appris, ils produisent un nouveau texte de leur propre chef dans ce que les chercheurs en IA appellent une hallucination. C'est pourquoi les agents conversationnels peuvent vous donner des réponses différentes si vous posez 2 fois la même question. Ils sont prêts à dire n'importe quoi, que cela soit basé sur la réalité ou non. Si les agents conversationnels hallucinent, cela ne fait-il pas d'eux des êtres sensibles? Les chercheurs en IA aiment utiliser des termes qui donnent à ces systèmes un aspect humain. Mais halluciner est juste un terme accrocheur pour dire « ils inventent des choses ». Cela semble effrayant et dangereux, mais cela ne signifie pas que la technologie est en quelque sorte vivante ou consciente de son environnement. Elle génère simplement du texte en utilisant des modèles qu'elle a trouvés sur l'Internet. Dans de nombreux cas, elle mélange et associe des motifs de manière surprenante et inquiétante. Mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle ne peut pas raisonner comme les humains. Les entreprises ne peuvent-elles pas empêcher les agents conversationnels de se comporter de manière étrange? Elles essaient. Avec ChatGPT, OpenAI a essayé de contrôler le comportement de la technologie. Alors qu'un petit groupe de personnes testait le système en privé, OpenAI leur a demandé d'évaluer ses réponses. Était-elle utile? Était-elle véridique? OpenAI a ensuite utilisé ses évaluations pour affiner le système et définir plus précisément ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Mais ces techniques ne sont pas parfaites. Les scientifiques d'aujourd'hui ne savent pas comment construire des systèmes qui soient totalement véridiques. Ils peuvent limiter les inexactitudes et les bizarreries, mais ils ne peuvent pas les arrêter. L'une des façons de limiter les comportements bizarres est de garder les conversations courtes. Mais les agents conversationnels continueront à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et lorsque d'autres entreprises commenceront à déployer ce type de robots, tout le monde ne sera pas en mesure de contrôler ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. L'essentiel, ne croyez pas tout ce qu'un agent conversationnel vous dit. C'était « Pourquoi l'intelligence artificielle dit-elle des absurdités? » un texte de Cad Metz paru le 26 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.